Radio Capi. Journal présenté par Jocelyne Moussaoupondé.
Visite hier de la première ministre à la prison centrale de Makala, 3 jours après la tentative d'évasion meurtrière dans cette maison carcérale. Judith Souminois a évalué l'ampleur des dégâts et annoncé la poursuite du désengorgement de cet établissement pénitentiaire. Le CIECO appelle le gouvernement à dialoguer correctement avec les vrais syndicats des enseignants afin de remettre l'année scolaire déjà engagée sur les rails. Le syndicat des enseignants du Congo CIECO parle d'une rentrée scolaire ratée à au moins 70% sur l'ensemble du pays. Pendant ce temps, l'UNICEF sensibilise les écoles et les parents à la lutte préventive contre l'épidémie de monkeypox. Nous en parlerons avec Grant Leighty, représentant de l'UNICEF en RDC. Il est notre invité. Bonjour à tous. 3 jours après la tragédie de la prison centrale de Makala, la première ministre, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a visité les installations carcérales. Elle a échangé avec les femmes victimes des viols et les a assurées d'une prise en charge rapide, de l'alimentation des prisonniers déjà relancés et du rétablissement de l'électricité et de l'eau. Judith Souminois a également fait savoir qu'une commission a été mise en place et qu'il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est au juste et pour suivre les désengorgements de cet établissement pénitentiaire. On écoute la première ministre dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Il y a une commission qui a été mise en place, les enquêtes sont en cours, il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est exactement. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes, j'ai discuté avec elles, il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé, raison pour laquelle hier ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers, mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu, la cuisine est en plein fonctionnement, donc aujourd'hui, ils ont eu de l'eau, du pain, mais évidemment, ce n'était pas assez, mais aujourd'hui, ils pourront, hier, ils ont eu aussi du riz, mais aujourd'hui, ils pourront manger correctement, convenablement, la cuisine est en train de fonctionner. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure, évidemment.
Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, témoignage accablant d'une avocate violée, détenue en prison depuis plus d'une année. Elle relate ce qui s'est réellement passé à la prison dans la nuit du 1er au 2 septembre à travers ce résumé de Jeff Ngoy.
Ici, c'était vraiment catastrophique. Les gens sont morts, tu n'en as pas l'idée. Ils ont tenté de s'échapper et on a tiré à bout portant sur eux. On est venu extraire quelqu'un. Juste après la coupure d'électricité, une Jeep est entrée dans la cour de la prison. Après, on a commencé à casser la prison quand on a vu que cette personne est sortie à bord de la Jeep avec son équipe. Certains détenus ont voulu aussi en profiter pour s'évader. D'une voix rauque, cette rescapée affirme que tous ceux qui ont essayé de s'évader ont été tués. Et c'est dans ces entrefaites que plusieurs femmes ont été violées, leurs biens et matelas emportés. C'est vraiment triste, nous dormons par terre, pas d'eau ni du courant. Non plus à manger, on n'a pas de choix, témoigne l'avocate. Selon son histoire, un prisonnier pouvait coucher avec 20 femmes dans une prison où l'on compte plus de 15 000 pensionnaires, à majorité des hommes. Les femmes étaient donc sans défense. Et jusqu'à présent, elles se disent abandonnées à leur triste sort. Aucune autorité ne les a visitées, à part le directeur des cabinets du ministre de la Justice.
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme préoccupé par la situation à la prison centrale de Makala, le BCNUDH, salue l'ouverture d'une enquête par les autorités et souhaite qu'elle soit prompte et transparente. Il invite les autorités à traduire en justice les auteurs des crimes et violations de droits humains survenus dans la nuit de dimanche à lundi au CPRK, quelle que soit leur fonction. Cette réaction du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est contenue dans un communiqué qu'elle nous résume ici, Rachel Kiesé.
S'agissant de l'enquête des événements survenus dans la prison de Makala, le BCNUDH se dit prêt, dans le cadre de son mandat, à fournir toute l'assistance nécessaire lorsque celle-ci aura été formellement requise par les autorités judiciaires. Le bureau conjoint prie les autorités de prendre des mesures urgentes en vue d'assurer une prise en charge holistique des victimes des violations de droits humains, y compris des violations sexuelles, en accordant une attention particulière à ceux et à celles qui sont dans une plus grande vulnérabilité. sécurité. Il se dit disposé à soutenir les autorités dans ses efforts. Les BCNUDH saluent aussi l'intention du gouvernement exprimée dans son programme de construire et réhabiliter les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Il encourage à ce titre à améliorer la séparation des détenus par sexe et groupe d'âge afin de prévenir les violences sexuelles en milieu carcéral. Alors qu'une épidémie, Monkeypox, est en cours en RDC, les BCNUDH invitent les autorités à s'assurer que des mesures soient prises pour réduire les risques des propagations de la maladie au sein du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa et dans des lieux des détentions à travers le pays, indique le communiqué.
Selon les BCNUDH, avant les événements de la nuit du dimanche à lundi, plus de 15 000 personnes étaient détenues à la prison de Makala, qui a été construite pour accueillir seulement le 1/10 de ce chiffre, soit 1 500 détenus. La vie humaine est sacrée, tel est l'intitulé de la déclaration des évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, publiée hier mercredi en réaction au drame survenu à la prison centrale de Makala, tout en rappelant un certain nombre de drames qui ont coûté la vie à plusieurs Congolais en l'espace d'une année. La Sanko indique qu'il est déplorable de devoir compter chaque jour des morts, des suites des attaques et bavures des forces de l'ordre et des sécurités d'une part, et de la négligence des services de l'État de l'autre. Les prélats catholiques recommandent la justice d'engager résolument de poursuites à l'endroit des auteurs d'actes de violation de droits de l'homme à travers le pays. Il invite également les uns et les autres à promouvoir la culture de la non-violence et du respect de la vie humaine. Vous suivrez à ce sujet le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo dans nos journaux de 12h, 15h et 18h, heure de Kinshasa. Monseigneur Donatien Cholet sera l'invité de ces éditions. Bouclons ce chapitre au Nord Kivu où les prisons de Beni, Butembo et Lubero sont dans une situation critique, surpeuplement extrême, grave pénurie de nourriture et des médicaments, lenteur des procédures judiciaires. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un récent rapport du réseau pour les droits de l'homme, REDO, publié à la suite d'une mission de monitoring réalisée du 27 août au 2 septembre 2024 dans ces établissements pénitentiaires. Le rapport met en lumière des conditions des détentions déplorable dans ces trois prisons ainsi qu'au centre de rééducation pour mineurs. Martial Papimoukeba nous en dit plus.
Dans son rapport publié le mardi 3 septembre, les REDO affirment que la prison centrale de Beni Kangwayi héberge 1550 détenus, mais seulement 242 d'entre eux sont condamnés. À Butembo Kakwangura, sur 1289 détenus, seuls 160 ont été jugés. Situation tout aussi préoccupante à l'établissement des gardes et d'éducation des enfants de Beni où 60 mineurs souffrent du manque de prise en charge alimentaire. Ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans conséquences sur les détenus dont beaucoup meurent par manque de nourriture ou de médicaments. Les prisons de Beni et Butembo sont parmi les plus touchées avec respectivement 44 et 62 décès enregistrés entre janvier et août 2024. Maître Muhindo Wasivinywa, le coordonnateur du REDO, appelle à des mesures urgentes pour désengorger ces prisons.
D'accélérer l'instruction des dossiers avec prévenus, que les prévenus poursuivis pour les faits moins graves soient libérés. La prison de Beni devra être élargie et une autre prison spatiale devra être construite à Ville de Butembo.
Les REDO avertit que sans ces mesures urgentes, ces prisons resteront des lieux de souffrance et de morts lentes. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
4 jours après la date prévue pour la reprise des classes en RDC, le syndicat des enseignants du Congo parle d'une rentrée scolaire ratée à au moins 70% sur l'ensemble du pays. Raison évoquée selon le CIECO, le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté n'a pas satisfait les attentes des enseignants parmi lesquels l'amélioration de salaire et a imposé unilatéralement la rentrée scolaire pour le 2 septembre. Le syndicat des enseignants du Congo estime toutefois que l'année scolaire déjà engagée peut encore être remise sur les rails, mais le gouvernement doit pour cela dialoguer correctement avec les vrais syndicats des enseignants et se mettre d'accord sur les points de discorde. On écoute à ces sujets Cécile Tshiombo, secrétaire général du CIECO, au micro de Donna Madimba.
Ce sont les enseignants eux-mêmes qui se sont prononcés en commençant par les assemblées générales en province jusqu'à l'Assemblée générale au niveau national qui a concrétisé les vouloirs des enseignants membres du CIECO au niveau national. Nous recommandons dans la déclaration du CIECO Les enseignants ont laissé une ouverture. Ils ont dit ils prennent la communauté tant nationale qu'internationale à témoin et ils restent ouverts à toute négociation ou dialogue vrai, sincère avec le gouvernement qui doit être fait dans un bref délai avec les vrais syndicats des enseignants. Et si le gouvernement ne peut pas obtempérer, les enseignants prient au chef de l'État, en tant que politique, de prendre une décision politique pour pallier à cette situation, afin d'en trouver des solutions idoines.
Rentrée scolaire sans enseignants dans certains établissements publics à Kinshasa, à Lepemolende, dans la commune de Mangafula, les enseignants grèvent tout en étant présents sur les lieux de travail, alors qu'à Lepetobongisa Binzaozon, dans la commune de Ngalima, les enseignants ont carrément renvoyé les élèves à la maison. Depuis le lundi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, enseignants et élèves se rendent à l'école, mais les cours ne se donnent pas. Face à cette situation, les parents et les élèves demandent au gouvernement de répondre aux besoins des enseignants pour garantir la reprise effective des enseignements. John Chibouaboua fait la ronde de certaines écoles de Kinshasa. Suivez son reportage.
À Kinshasa, la rentrée scolaire marche à des vitesses. Elle est effective dans certaines écoles, mais pas dans d'autres. À l'école primaire Tobongisa, par exemple, les enseignements ne se donnent pas et les enseignants ont déserté les salles des classes et même l'école, abandonnant les élèves à leur triste sort. Suivez les témoignages de quelques élèves rencontrés sur place.
Les enseignants, ils sont en train de faire la grève. Ils ont besoin que l'État leur paie, je veux dire.
Il n'y a pas cours depuis le lundi jusqu'au samedi. On a dit, on ne sait pas, peut-être qu'on peut venir le lundi prochain.
Venir pour constater la situation dans l'établissement où étudie son enfant, ses parents lancent un message au gouvernement.
Les enseignants ont des revendications, que le gouvernement essaie de les satisfaire. Et ils peuvent continuer à enseigner.
À l'école primaire Molende à Mangafula, par contre, les enseignants observent leur mouvement de grève sur le lieu du travail. Cette enseignante témoigne.
Nous demandons à ce que tout ce que nous voudrons soit réalisé. Pourquoi comme ça? Nous sommes à l'impossibilité de faire scolariser nos enfants au niveau des universités. Manque de moyens, nos enfants, il est diplômé. D'État, il reste chaque fois à la maison. Le président ne peut pas nous promettre sans être réalisé. Nous voudrons que cette fois-ci, vraiment qu'il prenne les choses en main.
Notez que dans plusieurs écoles publiques de la capitale, les élèves affirment qu'ils se présentent à l'école, mais sans étudier du fait que les enseignants refusent de donner cours.
Au Nord Kivu, la rentrée scolaire n'est pas encore effective dans plusieurs écoles publiques et conventionnées, notamment celle du primaire. En cause, l'appel à la grève lancé le 30 août dernier par la synergie des syndicats des enseignants du Nord Kivu à l'issue de leur assemblée générale. Déjà, le président provincial de la FOSINAT Nord Kivu, Force syndicale nationale des enseignants, dénonce des intimidations auxquelles font face certains enseignants. Pendant ce temps, dans les territoires de Massissi, au troisième jour de la rentrée scolaire hier mercredi, plusieurs élèves ne répondent toujours pas à l'appel. Le constat est fait par les acteurs de la société civile locale, entre autres, dans plusieurs écoles de la zone de Mouesso. Cette partie du groupement de Bachali Mokoto, occupée par les rebelles du M23, reste sous la menace des affrontements à répétition entre ces derniers et certains groupes armés. Autre nouvelle, à Kinshasa, 290 vendeurs victimes de l'incendie qui a consumé le pavillon 5 du marché de la Liberté dans la commune de Massina dans la nuit du 24 au 25 août dernier viennent de bénéficier en urgence d'une aide financière du gouvernement. C'était au cours d'une cérémonie mardi au jardin des premiers à la primature. Blaise Makassi nous en parle.
Cette intervention du gouvernement a pour objectif de leur permettre de subvenir aux besoins de leur ménage pendant cette période de rentrée scolaire. Une commission avait été mise sur pied pour élaborer la liste définitive de tous les sinistrés et a effectivement perdu leurs biens à la suite de l'incendie. La même commission va procéder à l'évaluation des pertes en marchandises et autres matériels en vue d'envisager une indemnisation comme soutien à la reprise des activités. En outre, il est prévu de réhabiliter dans les brefs délais le pavillon 15 où 138 tables ou échoppes ont été entièrement consumées par le feu, de mettre en place des sapeurs-pompiers et de moderniser le dit marché. Aussi, une réponse structurelle est prévue à travers l'institution d'une commission interinstitutionnelle chargée de la problématique de la modernisation des marchés des agglomérations du pays. La première ministre avait également encouragé les vendeurs à structurer leur commerce afin de bénéficier des avantages liés au système financier et commercial formel. Un Ainsi, ils pourront facilement accéder au crédit bancaire pour plus de rentabilité.
Actualité internationale.
Antonio Guterres, le chef de l'ONU, appelle à réparer les injustices historiques envers l'Afrique. Il a dit ce jeudi 5 septembre lors d'un discours prononcé face à une cinquantaine de dirigeants africains réunis à Pékin pour le sommet Chine-Afrique. Il est scandaleux que le continent africain n'ait pas de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il déclaré, rapporte l'AFP.
L'invité.
L'UNICEF sensibilise les écoles et les parents à la lutte préventive contre l'épidémie de monkeypox. Pour en savoir plus, nous recevons Grant Leyti, représentant de l'UNICEF en RDC. L'invité de la rédaction s'entretient ici avec Askin Zigbiataoro.
Monsieur Grant Leyti, bonjour.
Bonjour.
C'est la première semaine de la rentrée scolaire, une rentrée des classes qui intervient dans un contexte de flambée de mpox. Quelles sont les mesures de prévention possibles en ce moment en RDC, spécialement pour les enfants et les parents?
Bon, tout d'abord, nous sommes très contents d'appuyer la rentrée scolaire. C'est vraiment très important pour les enfants d'aller à l'école, tout comme dans le temps de pandémie. En termes de mesures, on sait que le mpox, il y a une transmission qui se fasse entre enfants par contact physique. Donc, il est très important de d'abord assurer à ce qu'il y ait la distanciation entre les enfants quand ils sont dans la salle de classe d'abord. Deuxièmement, c'est très important qu'il y ait de l'eau et savon disponibles dans les écoles et on lave les mains régulièrement. Et après aussi, une fois à la fin de classe, c'est important de passer avec un chiffon pour nettoyer la surface de bancs et les bureaux utilisés par les enfants.
Voilà, c'est clair comme mesure telle que vous venez d'évoquer. Alors, quel est le rôle que joue UNICEF dans les efforts de sensibilisation pour freiner la propagation de cette maladie?
On est en train de travailler avec les autorités sanitaires pour préparer des campagnes de vaccination. Dès que le vaccin arrive, la plupart des vaccins sont destinés pour les enfants. Il y en a aussi pour les adultes. Donc ça, c'est le côté prévention. Maintenant, vis-à-vis de la prise en charge des cas, des enfants affectés par mpox, il y a la prise en charge médicale, on est en train d'appuyer. Il y a aussi beaucoup de cas des enfants avec la malnutrition. La malnutrition ou par exemple le rougeole peuvent contribuer à la mortalité. Si l'enfant termine avec le mpox et quelque chose comme la malnutrition, ça diminue l'auto-immunité de l'enfant. Et finalement aussi, il y a une composante sur le psychosocial, parce que de contracter l'impox, c'est quelque chose de terrifiant pour les enfants, mais même pour les parents. Donc, on est aussi là pour rassurer les familles et les communautés affectées.
Mais est-ce que concrètement, dans des écoles, comment UNICEF compte protéger les enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des dispositions pratiques, par exemple, de doter les écoles avec des intrants de protection?
C'est que pour les écoles, on est en train de promouvoir que chaque école assure la disponibilité de l'eau et du savon. Il y a des zones où on voit qu'il y a quand même des défis tels que les écoles à proximité de sites déplacés qui sont complètement surpeuplés. Donc là, on va mettre une attention particulière pour doter les écoles, les salles de classe avec l'eau, savon, etc. Donc il y a aussi cette composante des entrants. Nous attendons aussi, nous avons besoin de mobiliser plus de ressources pour faire face. Avec plus de ressources, on pourrait amplifier la dotation de ces écoles avec le matériel requis.
Je crois qu'il y a quand même une collaboration avec le gouvernement pour essayer de soutenir les efforts dans le sens de faire face à cette épidémie.
Totalement. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est en appui, la responsabilité au niveau national est bien avec le ministère de la Santé publique. Il y a une cellule d'urgence qui a été établie au sein de l'Institut de Santé nationale de santé publique qui se trouve dans le ministère de la Santé. Chaque lundi, il y a une réunion de coordination entre le ministre, les chefs d'agence et de bailleurs Mais tous nos efforts sont bien pour appuyer le ministère.
Monsieur Grand Leiti, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Peleki Pelamondo. Il a été mis en onde par Billy Landry Betou. Merci à vous tous de l'avoir suivi.